Les 26 et 27 octobre 2019 se tenait la 14e édition du salon Tatou Juste, le rendez-vous des solutions heureuses. Radio Onden vous propose de revivre cet événement à travers l'espace média et les discussions rencontres animées par Radio Dio et Radio Onden durant tout le week-end.
Radio Dio 89.5 et Radio Onden 90.9, toujours associés pour vous présenter ce dernier temps de rencontres-discussions prévues là en cette fin de journée. Sous la thématique « Comment tendre vers le zéro déchet ?» Vaste question, on va tenter d'y répondre avec différents invités intervenant ici. Quatre, en tout cas, structures, collectifs, organisations représentées. On va le faire ensemble d'ailleurs avec Onden Agro, représenté par Thierry ici. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. À vos côtés, à votre gauche, on retrouve Stéphanie pour Care Heat, entreprise stéphanoise. Bonjour.
Bonjour à tous.
Et enfin, ici, pour poursuivre encore ce tour et cette table ronde, il y a l'Aubaine Récupératech, magasin collaboratif, avec ici trois de ses représentants représentantes, Martin, Mathias et Maïva. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Salut.
Bonjour. Bonjour.
Et oui, voilà. Et puis enfin, là, juste à mes côtés, on retrouve Pièce Montée avec Karima. Bonjour.
Bonjour.
Qui est là aussi travaille à la collecte et la revente à prix solidaire de chute de production. On va évoquer tout cela. Vous représentez aussi finalement le focus qui est mis cette année par le salon Tatou Juste sur ces initiatives, ces nouvelles actions, organisations, collectifs qui ne participent pas directement au salon. C'est-à-dire que vous, les uns et les autres, n'avez pas forcément un stand ici sur le salon Tatou Juste, mais néanmoins, un espace focus est dédié à ces nouvelles actions, ces nouvelles initiatives, ces nouveaux acteurs, juste à l'entrée du salon, à côté du point info, juste à la droite. Et d'ailleurs, après cette rencontre-discussion, le public aura l'occasion de vous retrouver pour peut-être poursuivre la discussion et aller peut-être un petit peu plus loin sur la question en vous retrouvant précisément sur cet espace focus. On va commencer par un tour de table dans cette petite causerie. Forcément, il va falloir aussi vous présenter les uns et les autres, les unes et les autres, en tout cas représenter les structures, organisations que vous représentez. Je rappelle aussi une petite règle d'or pour le public ici présent, qu'un micro est disponible. Donc si vous souhaitez à un moment ou à un autre intervenir, poser une question, l'antenne est libre, comme l'on dit chez nous. Vous levez la main, vous faites signer, on vous donnera la parole avec grand plaisir. On commence ce tour de table avec Stéphanie et Care Heat, entreprise stéphanoise de lutte contre le gaspillage alimentaire, précisément. Qui êtes-vous? Comment l'entreprise s'est constituée, créée et l'intention, bien entendu, de cette entreprise locale?
Ça marche. Eh bien, écoutez, nous, on est parti du constat qu'il y a un tiers de la production mondiale en termes alimentaires qui est aujourd'hui gaspillée. Donc, ça épuise vraiment des ressources et puis ça a vraiment des impacts à la fois écologiques, économiques, mais aussi éthiques. Et donc, on a souhaité agir sur cette dimension-là. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Notre service s'adresse à des commerçants, plutôt des petits commerçants qui peuvent être des restaurateurs, des bouchers, des charcutiers, des pâtissiers, des coffee shops, des boulangers. Et l'idée, c'est de travailler avec eux sur trois aspects. Le premier, l'évaluation de leurs pratiques anti-gaspillage alimentaire, comment ils s'approvisionnent, puisqu'on sait que 14% du gaspillage alimentaire a lieu durant la chaîne de transport. Est-ce qu'ils forment leurs salariés? Est-ce qu'ils recyclent leurs biodéchets, etc. Donc, on va évaluer leurs pratiques, premièrement. Deuxièmement, on va les accompagner pour aller plus loin, soit avec des outils que nous créons nous-mêmes en interne, soit avec des structures. On travaille par exemple avec Onden Agro, un boulanger chez nous qui aujourd'hui du coup ne recycle pas son pain, ses invendus, va pouvoir travailler avec Onden Agro pour du coup revaloriser ce pain par exemple en farine animale. Donc l'idée, c'est vraiment de connecter ces commerçants là avec les structures qui existent sur leur territoire, pardon, et du coup être en local. Et puis enfin, la troisième action qu'on mène avec eux, c'est la valorisation de leurs actions, puisque c'est très bien qu'ils mettent en place des pratiques, mais ce qu'il faut aussi, c'est que les consommateurs aient conscience de ce travail qui est fait. Et puis, c'est aussi des consommateurs qui, potentiellement, chez eux, font du zéro déchet et qui souhaitent consommer aussi de manière éco-responsable. Et là, on les aide à les identifier dans un annuaire en ligne où sont du coup répertoriés tous ces commerçants engagés. On a aussi un label qui est apposé du coup sur la devanture de ces commerçants et puis tout un ensemble de communications sur les réseaux sociaux.
Très bien. Vous travaillez auprès des commerces essentiellement.
Oui.
On connaît la question du gaspillage sur, pour exemple, la restauration collective. dans les établissements scolaires et autres. Est-ce que vous intervenez également à ce niveau-là?
Alors aujourd'hui, ce n'est pas notre cible. C'est vrai que si on reprend déjà le zéro déchet, c'est très large. Ensuite, on s'est recentré sur la thématique du gaspillage alimentaire. Et là encore, on a le gaspillage alimentaire à la maison, en restauration collective, en restauration commerciale. Bref, c'est assez large. Mais on a décidé que pour bien faire une chose, il fallait d'abord se centrer sur un type de public. Et donc aujourd'hui, on intervient uniquement sur de la restauration commerciale. Et en effet, nous n'intervenons pas sur de la restauration collective. Par contre, il faut évidemment que les commerçants et les consommateurs agissent ensemble. Et en ce sens-là, on a un blog et on anime des chroniques sur du zéro déchet pour aussi sensibiliser les consommateurs au gaspillage, au zéro déchet, au plastique, etc.
Vous êtes une entreprise.
Oui.
Donc, vous fonctionnez concrètement et pratiquement. De quelle manière? C'est-à-dire, donnez-nous un exemple d'une intervention auprès d'un commerce. Vous réalisez un travail d'expertise, de diagnostic, puis ensuite on rentre dans la phase opératoire avec effectivement des pistes données, des solutions éventuelles apportées. Donnez-nous un exemple concret.
Alors aujourd'hui, on ne va pas faire d'audit dans les établissements pour la simple et bonne raison que ça a un coût qui serait vraiment trop important pour des petites structures. Aujourd'hui, par exemple, on travaille avec des restaurants où c'est un couple qui tient le restaurant. Et du coup, ils n'ont pas des centaines, voire 1000 euros à mettre dans un audit. Donc tout ça se fait de manière numérique. Donc on a en interne la maîtrise de ces outils-là, puisque Franck, qui est du coup dans la salle, qui est le dirigeant de l'entreprise, développe tous ces outils-là. Donc le commerçant va avoir accès à un espace, il va répondre à un certain nombre de questions. On a travaillé évidemment ce cahier des charges avec des commerçants sur, encore une fois, comment ils s'approvisionnent, comment ils gèrent leur stock, est-ce qu'ils forment leurs salariés, etc. Ils répondent à ces questions et puis on n'est pas que sur du déclaratif. Ensuite, ils vont devoir nous fournir un certain nombre de preuves de ce qu'ils nous avancent. Donc, ils ont vraiment un espace dédié. Et ensuite, nous, par exemple, s'ils sont sur Saint-Étienne, on va pouvoir les rencontrer évidemment quand même pour leur dire, on a vu que dans ce que vous nous avez dit, il y a encore des améliorations à faire. À votre avis, quelles sont vos priorités? Vers quoi vous avez envie de vous engager en premier? Et là, on va trouver avec eux des solutions. Moi, je ne recycle pas encore mes biodéchets et ça m'intéresse. Et il y a Compostonde qui existe du coup sur le territoire stéphanois et qui peut venir récolter vos biodéchets. Vous ne recyclez pas votre pain? Pas de problème, il y a Andenne Agro qui existe. Et puis ensuite, avec les partenaires que nous avons créés, à eux de se coordonner et de voir comment ils peuvent travailler. Et puis enfin, sur l'aspect communication, nous rédigeons une page du commerçant pour qu'il soit visible dans notre annuaire. On récolte aussi des photos, on explique qu'est-ce qui est mis en place dans l'établissement. Et ensuite, le travail sur les réseaux sociaux se fait vraiment conjointement. Le commerçant aujourd'hui, il a fait du pain perdu en dessert dans son restaurant. Hop, il nous le dit, il nous envoie une photo et nous, on peut faire la communication aussi sur notre page Facebook, notre page Instagram, etc.
Très bien. Est-ce que les commerçants sont favorables de manière générale à votre démarche ou vous rencontrez aussi certaines réticences?
Alors, ça va dépendre des commerçants. Et en effet, les objectifs sont parfois différents. Certains le font vraiment de manière éthique. C'est-à-dire que ça leur pose un problème vraiment éthique de se dire il y a des gens qui meurent de faim dans le monde ou il y en a qui n'arrivent pas à se nourrir convenablement en France et du coup n'ont pas envie de jeter. Et sont même nous ont pas forcément attendu, ils ont déjà mis ça en place dans leur commerce depuis longtemps. Et là, l'idée, c'est de le valoriser et de rentrer dans une communauté aussi de commerçants. Et d'autres vont rentrer aussi avec nous par le biais économique, puisqu'il faut pas se leurrer, tout ce qu'on jette, c'est de l'argent qu'on jette en même temps à la poubelle. Donc là, on va travailler avec eux sur deux choses. Premièrement, la marge, c'est-à-dire que ce qu'ils ne vont plus jeter, les bonnes pratiques qu'ils vont mettre en place vont leur permettre d'augmenter leur marge, mais aussi sur le chiffre d'affaires, puisque toute la communication qu'on va faire, c'est pour aussi leur amener de nouveaux clients. Donc ça va un petit peu dépendre de leurs objectifs, de ceux qu'ils ont déjà mis en place.
Dans votre initiative, il y a l'aspect écologique, l'aspect économique. L'aspect social, on vient de l'évoquer un petit peu, est-ce que c'est un volet aussi sur lequel vous travaillez ou que vous développez qui pourrait, pour exemple, de ce gaspillage, permettre du réemploi alimentaire sur d'autres actions, peut-être davantage de solidarité auprès de d'autres publics que ces entreprises ou commerces plutôt locaux?
Oui, exactement. Donc au départ, on s'est vraiment centré sur cette thématique environnementale, mais on s'est dit, il y a quelque chose de manière éthique et sociale à faire, et solidaire surtout. Donc là, on vient de lancer une application mobile qui s'appelle Bon Appétit, qui a vocation à redistribuer des invendus de nos commerçants stéphanois uniquement pour le coup, alors que nos commerçants peuvent être à toute la France. Pour cette application mobile, c'est des commerçants stéphanois qui peuvent redistribuer leurs invendus à un prix symbolique à des personnes dans le besoin. Donc ça va être prioritairement des étudiants, des personnes sans emploi, des parents isolés. Sur cette application mobile, en effet, c'est de la redistribution d'invendus. Pour resituer un petit peu le contexte, quand on parle de gaspillage alimentaire, on entend tout, enfin, la plupart du temps en tout cas, parler des invendus, des invendus. Oui, c'est un fait, il y a des invendus et il faut s'en préoccuper, mais ça n'est pas la majorité du gaspillage, il y a plein de choses à voir. Et c'est pour ça que Kerit se focalise sur toutes ces dimensions-là. Par contre, les invendus, bah, c'est quelque chose sur lequel il faut agir. Et donc, cette application mobile a vocation de les redistribuer. Nous ne prenons pas de commission sur les ventes. C'est vraiment une application qu'on a développée dans un but solidaire. Donc, on ne gagne pas d'argent sur les invendus. On ne veut pas se faire de l'argent en se disant, bon, bah, peu importe si le commerçant produit plus, de toute manière, il pourra le revendre sur l'appli. Et puis, nous, en plus, on se fera de l'argent. Ce n'est pas l'idée. Donc, on essaie de pallier aux problématiques qu'on a déjà pu voir sur ce qui existe déjà. Donc là, typiquement, le commerçant, il lui reste des choses, il le met en ligne sur l'appli. Une personne ayant des revenus modestes peut choisir ce panier-là pour un prix de 1 euro, 3 euros ou 5 euros en fonction de ce qu'il y a dans le panier et aller le récupérer directement chez le commerçant. Et en plus de ça, on a fait un partenariat avec une association du coup étudiante qui s'appelle l'Agorae, qui est une épicerie solidaire étudiante où on leur reverse une partie du coup de ce qui est payé par ces personnes-là.
On les a reçus il n'y a pas plus tard que ce début d'après-midi ici pour nous parler de cette initiative épicerie solidaire et étudiante en effet. En lien avec l'Université de Saint-Étienne. Sur ce volet social, merci, pardon Stéphanie. On va faire transition sur ce volet social avec, avec Thierry pour nous parler d'Onden Agro, volet social, parce que chantier d'insertion concernant ce chantier, cette structure. Donc on vous laisse présenter.
Oui, alors tout à fait, nous, Onden Agro, on est une association qui est à la base une association sociale. Puisque le but, c'est d'accompagner des personnes en difficulté socio-professionnelle vers l'emploi ou vers la formation qualifiante. Donc, on accueille une trentaine de personnes dans l'année. On leur propose un contrat de travail de 4 mois qui peut être renouvelé jusqu'à 2 ans. Et donc, après, on a plusieurs activités, dont l'activité de valorisation des déchets de pain en nourriture animale. Le but étant donc de collecter tous les invendus dans les boulangeries et grandes surfaces du territoire, de ramener ces invendus à l'atelier, de les trier, de les trancher, de les sécher, de les broyer pour en faire de la panure que l'on va revendre aux agriculteurs. Et en deuxième activité, on collecte les huiles de friture usagées auprès des restaurants, des fast-food, pour revendre cette huile pour qu'elle soit revalorisée en biodiesel.
Alors, ça concerne combien de personnes qui participent à ce chantier d'insertion ?
On a actuellement une vingtaine de salariés en contrat d'insertion, ce qui représente 30 personnes dans l'année à peu près.
D'accord. Donc, ce sont des emplois, quand on parle d'insertion, il y a une idée aussi de tendre, bien sûr, vers aussi une certaine pérennité de l'emploi. Alors, comment ça se passe pour ces parcours ?
C'est un véritable contrat de travail à 26 heures. Donc ils sont là effectivement pour produire, mais à côté ils sont accompagnés par une chargée d'insertion socio-professionnelle qui va les accompagner à créer un projet professionnel pour qu'effectivement ils puissent partir vers un emploi durable. Et c'est pour ça que les personnes, dès qu'elles peuvent partir, elles partent. Si elles partent au bout de 3 mois, elles partent au bout de 3 mois. S'il leur faut 18 mois, on les garde 18 mois. Mais on ne peut pas les garder plus de 24 mois.
Vous avez parlé de qualification tout à l'heure, ou en tout cas de peut-être d'objectifs de formation qualifiante, d'expérience qualifiante, c'est le cas ?
Alors, tout dépend le projet que vont avoir les personnes. Là, on a une personne qui est partie pour être ambulancière, donc effectivement, elle a suivi une formation avec le diplôme derrière, d'autres avec des parcours logistiques ou des parcours de poids lourd. Donc, tout dépend de ce que va vouloir faire la personne.
D'accord. Pas forcément sur ce secteur d'activité.
Absolument pas, non.
Qu'est le réemploi ou la collecte et autres. Le lien avec les acteurs locaux, les partenaires divers, vous les avez énoncés, mais qui sont-ils ? Comment répondent-ils au projet ? Sont-ils renouvelés ? Sont-ils fixes ? Comment ça fonctionne-t-il ?
Il y a plusieurs types de partenaires. Il y a les partenaires institutionnels, on a les prescripteurs, donc Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale, etc., qui nous prescrivent les candidats que l'on va pouvoir recruter. Et puis après, on a bien sûr l'État, le département, la région, la commune de Saint-Étienne qui nous aident aussi financièrement puisque la valorisation de nos produits ne nous permet pas de subvenir aux charges que l'on a.
D'accord. pour les autres partenaires, je parlais de ces boulangers, ces boulangeries, ces centres commerciaux qui vous permettent de récupérer hein, et de collecter. Qui sont-ils là aussi ? Sont-ils fixes ? Sont-ils renouvelés ? Sont-ils intéressés ponctuellement par l'expérience ou plutôt pérennes aussi dans cette activité ?
Si, c'est très pérenne puisque on a à peu près une centaine de boulangeries et une douzaine de grandes surfaces. Que l'on a à peu près depuis le début. Donc, généralement, on travaille sur du long terme. Et c'est la même chose avec nos agriculteurs. On a une quinzaine d'agriculteurs qui nous suivent depuis le départ. On a un produit, une panure qui est stable et qui est saine. Donc, en termes de rapport qualité-prix, s'y retrouve.
Sur le biodiesel, enfin, sur en tout cas la collecte des huiles usagées, là, comment ça fonctionne ? Vous travaillez avec qui ? Qui transforme et permet d'assurer dans cette chaîne-là Donc, le biodiesel et dans quel usage et avec quel
nous
partenaire
on a passé une convention avec une entreprise lyonnaise, Ecovalim, qui nous a transmis leur fichier client de restaurateur qui est sur Roanne et sur Loire-Centre, à peu près 200 restaurateurs. Et on s'est engagé, nous en contrepartie, à leur revendre l'huile collectée qui va être retransformée par eux en biodiesel. Et après, on développe, nous actuellement, notre fichier propre sur Saint-Étienne et la région.
Vous êtes situé où exactement ?
On est situé au Chambon-Feugerolles.
Au Chambon-Feugerolles, donc dans l'Onden. J'imagine que vous avez un espace adapté pour collecter tout ça.
Au niveau de l'huile, c'est sur toute la Loire. Et au niveau du pain, Montbrison jusqu'aux portes de Lyon. En termes de quantité, donc on collecte 300 tonnes de pain. Alors 300 tonnes de pain par an, c'est 1 200 000 baguettes. Donc ça fait 200 000 baguettes par mois. Ça fait un joli tas de pain, d'invendus, de déchets qui seraient enfouis si on n'était pas là pour le revaloriser. 70% de ce qui est collecté peut être revalorisé en panure et revendu aux agriculteurs. Après, il y a 15%, c'est de l'humidité qui est enlevée pour pouvoir garder cette panure pour pas qu'elle remoisisse. On a du compost, donc du pain aussi qu'on ne peut pas transformer puisqu'il est déjà moisi lorsqu'on le récupère. Oui, il peut contenir du lardon, de la crème, du fromage. Donc, on n'a pas le droit de revaloriser en nourriture animale. Et puis, il y a un peu des plastiques et des cartons.
Et qui deviennent quoi, du coup, pour ces pains-là
C'est un agriculteur qui s'en sert comme compost qui mélange dans le fumier.
Merci.
Et au niveau des huiles, alors ça fait qu'un an qu'on a lancé cette nouvelle activité et on va être, à la fin de cette année 2019, à 50 000 litres quand même collectés.
Très bien. Merci, Onden Agro. Merci, Thierry. On passe à l'expérience suivante qui est l'aubaine Récupératech, une expérience plus qu'une expérience, c'est un magasin collaboratif. Martin, Mathias et Maëva, alors là aussi, présentation de ce qu'est l'aubaine Récupératech.
D'accord, donc nous déjà pour commencer, on est étudiants à l'école d'art et de design de Saint-Étienne, à l'ESAD, qui se trouve sur le site de la Cité du Design, juste à côté. Donc le projet de l'aubaine, c'est un projet qui est jeune, qui a à peine un an. En fait, l'idée, c'est qu'on est dans une école de design, donc une partie de notre cursus consiste en la création. Et on a en permanence besoin de matériaux, de ressources premières, donc là, de solutions. Soit on en achète des neufs en magasin, ce qui a un coût, surtout pour une vie étudiante. Et l'autre solution, c'est la récolte, ramasser, récupérer, réutiliser. Donc déjà, dans notre école, on avait cette culture de la réutilisation, de la récolte. Et on a essayé de passer une étape en plus, de continuer et d'ouvrir donc une forme de magasin, d'ouvrir un local qui permet de rassembler les matériaux récoltés par les différents étudiants, puis de les redistribuer, de les réutiliser, histoire de faire en sorte que un matériau puisse trouver l'étudiant qui en a besoin au bon moment. Donc on a cette zone de stockage, ce local. Et l'idée, c'est donc participatif. Tous les étudiants vont ramener des matériaux et venir les échanger contre d'autres matériaux pour réaliser des projets. Donc en termes de matériaux, on a du bois, on fait du tissu, on fait des bâches en plastique, tout ce qu'on peut récupérer. Et dans l'idée, c'est ça. C'est
système de troc avant tout, il n'y a pas d'action de collecte sont menées pour aller récupérer des matériaux ici et là.
En fait, nous, comment on travaille, c'est qu'on va souvent chercher des matériaux dans des bennes, parce que dans notre école, on jette 3 bennes par an, et que c'est une quantité immense pour une école de 300 étudiants, en fait. Ça fait une benne par 100 étudiants. Donc notre principale recherche de matériaux vient des bennes et des projets démontés des étudiants. Donc dans notre système d'échange, on ne fonctionne pas forcément dans le système de troc, parce qu'on a un propre système économique. Ce n'est pas forcément un étudiant qui va ramener un matériau contre un autre, mais c'est plutôt l'étudiant il ramène un matériau et on lui note dans une feuille combien de points il a, combien de matériaux il a ramené, et avec ça, avec cette solde, il peut acheter d'autres matériaux. Donc on n'est pas un magasin à proprement dire... où notre but, ça serait de vendre des choses, mais plutôt de les mettre à disposition des étudiants. Pas gratuitement, parce que justement, le fait que les étudiants viennent vendre des matériaux à la Récupératech, ça nous permet de subsister, ça permet de pérenniser la vie de la Récupératech, parce que sinon, tous les étudiants, ils viendraient juste prendre des matériaux. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne aussi entre l'entraide, et ça aide beaucoup qu'on soit juste une école et qu'on puisse le faire de façon collaborative, quoi.
Ouais. Je voulais poser la question sur, je me suis perdu justement. J'ai perdu, ça demandait, oui voilà, si, Récupératech, qui dit Récupératech, forcément on l'associe bibliothèque, discothèque, etc., un travail de classement. Donc là, comment aussi ça fonctionne sur le local qui accueille l'ensemble de ces matériaux?
Oui, il y a un travail un peu de classement des matériaux, donc il y a quand même tout un travail de rangement qui a dû être fait et de classification. Donc après, on range plutôt par type. On a rangé, par exemple, on avait beaucoup de bâches en plastique, donc on les a toutes rangées ensemble. On classe les tasseaux et après, c'est pas un travail aussi poussé qu'une matériothèque, par exemple, puisque là, on met à disposition, c'est un nom qu'on a repris en fait.
Oui, parce que la matériothèque, ça existe. L'école d'architecture en a
oui,
une, par exemple.
Bah, la cité du design aussi. Mais là, c'est l'idée d'une matériothèque, c'est vraiment d'exposer des matériaux et de nous donner le lien des entreprises en fait, qui fabriquent ces matériaux. Le mot récupératech, qui revient justement de l'école de Lyon, en fait, qui avait déjà créé ce système-là et qu'on a repris.
Peut-être qu'il faudrait séparer, différencier les objectifs d'une matériothèque d'une récupératech. En fait, dans une matériothèque, on va exposer des matériaux qui vont destinés à être intéressants par ses qualités plastiques, par sa caractéristique de matériaux, en fait. Et nous, on est une récupératech, c'est un endroit où on va mettre à disposition. Donc, on peut prendre directement les matériaux. Et juste un truc pour relever ce que Mathias a dit. En fait, à l'école, il y a ce schéma linéaire de venir d'un étudiant quand il fait un projet. Le schéma linéaire, c'est de concevoir d'abord son objet parce qu'on a une école de création. Ensuite, il va chercher des matériaux pour le produire. Ensuite, il va le construire. Et il va le présenter au prof lors des examens. Et ensuite, il va le jeter souvent.
En fait, vous êtes les étudiants en beaux-arts, et en art et design, vous êtes des gros gaspilleurs finalement.
Oui, carrément. Le design, c'est une discipline qui gaspille beaucoup, beaucoup.
Donc il était temps de réfléchir à la question quand
ouais.
même.
Et du coup, on voulait essayer de passer de ce schéma linéaire qui, à la fin, termine dans des déchets, à un cycle en fait. Donc ce que nous, on fait, c'est qu'on prend ces déchets, on les récupère, on les stocke et on les échange.
Et on les réutilise. Ouais. Finalement, on a aussi un peu évoqué l'expérience tout à l'heure avec la conférence qui s'est tenue ce début d'après-midi. Ça peut peut-être aussi émerger en idée et en concrétisation. C'est les Laotech Lab. Est-ce que ça vous parle? Et est-ce qu'on est un petit peu dans cette idée, quoi, finalement?
En fait, je pense que là où ça rejoint, c'est dans l'idée que l'esprit Laotech, c'est une démarche de création aussi. C'est-à-dire que c'est une démarche où Laotech, c'est qu'on va chercher, à l'inverse des high-tech, à chercher une solution plus simple, une solution qui dure dans le temps, une solution qui peut être réparée, qui est plus proche de l'utilisateur. Nous, on s'en rapproche d'une certaine façon parce qu'on a une démarche qui est on espère pouvoir aussi modifier la façon de créer dans notre école. C'est-à-dire que on n'a pas forcément espoir de faire disparaître les déchets parce qu'à notre échelle, on ne pourra pas le faire. Par contre, on a espoir de faire changer, d'éduquer d'une certaine façon, de faire changer l'esprit des gens qui sont dans cette école et dans leur processus créatif, de prendre en compte cette idée de récupérer, cette idée de faire plus avec moins, cette idée d'aller chercher des choses qui n'ont pas forcément de valeur et de chercher à leur en donner. Donc dans cette idée-là, je pense qu'on rejoint une certaine démarche créative.
L'initiative est plutôt nouvelle, mais est-ce que vous avez déjà pu mesurer l'efficacité, je dirais, de l'action?
Nous, cette année, c'est un peu différent que l'année dernière, parce que l'année dernière, on avait lancé la Récupératech et c'était plus une initiative en marge de l'école. Cette année, on est vraiment implanté à l'intérieur de l'école. On a eu un local qui a été repris, en fait, de l'association étudiante du BDE de l'école. Donc, cette fois-ci, on est à l'intérieur de l'école. Et pour le coup, on a beaucoup de plus de matériaux que l'année dernière. Et il faudra voir dans cette année si ça marche vraiment ou pas, quoi.
Ouais, okay.
Mais après, notre objectif, c'est de répondre à un besoin spécifique de l'école. Ça tombe bien parce que ça permet de répondre aux difficultés de chercher un matériau des étudiants et aussi à créer un lien social. Parce que nous, on n'est pas qu'un magasin où on donne des matériaux, mais aussi on est un endroit qui rejoint des gens. Donc à l'intérieur de l'école aussi, il y a des rencontres, il y a des gens qui viennent parler et tout.
Ouais. Alors juste pour terminer, vous arborez un joli petit collier. C'est de la récup, ce sont des bouchons de bocaux. Hein. Enfin, c'est le logo de la Récupératech.
Oui, c'est ça, et ça a été fait sur des bouchons de bocaux en fait, qu'on a peints et dessinés par-dessus. C'est le logo qui est une benne en fait, qui est toute belle.
Toute belle
et toute
jaune.
Qui représente l'aubaine, donc le jeu de mots. Parce qu'on, là, on ne le voit pas écrit, mais on l'écrit aubaine, mais avec le mot benne, qui vient vraiment pour faire un jeu de mots entre l'aubaine de trouver un matériau et la benne d'où viennent la plupart de ces matériaux. Là.
Oui, Martin, pour terminer.
Une dernière chose, juste de souligner qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas la seule Récupératech qui est en France, ni dans la seule des écoles de création. En fait, il y a plusieurs écoles qui ont leur propre Récupératech et on est rassemblés dans un réseau des Récupératech. On est une fédération, donc ça veut dire qu'on est ensemble pour partager, pour nous conseiller, en fait, et tout en gardant notre aspect local aussi. Et juste le pas suivant de notre Récupératech, ça serait de pouvoir récupérer des matériaux dans des entreprises et pas juste au sein de l'école.
Merci Martin de ces précisions. L'aubaine Récupératech, donc le magasin collaboratif de matériaux et réemploi au sein de l'école d'art et design de Saint-Étienne. Merci Martin, Maëva et Mathias. Et on termine ce tour de table avec Karima ici pour pièce montée qui assure là aussi de la collecte. Vous allez nous dire de quel matériau il s'agit, entre guillemets, collecte et revente également, hein, que vous assurez. Pièce montée.
Bon, eh bien, voilà un nouveau partenariat qui peut se mettre en place, du coup, avec la Récupératech. Pièce montée, en fait, était jusqu'à présent une activité du centre social Le Babet qui se trouve dans le quartier Beauprin-Tarentaise à Saint-Étienne. Cette activité est devenue association depuis peu et donc est une boutique associative. Et la boutique associative se situe, elle, en rue du Théâtre à Saint-Étienne, toujours dans le quartier Beaubrun-Tarentaise, vers la rue de la Ville. Voilà si vous connaissez. Donc la boutique Pièces Montées, c'est une boutique qui travaille sur la chute de production industrielle. On collecte des chutes de production industrielle dans les entreprises locales. Ça peut être du bois, ça peut être du textile, du métal, du plastique, toutes sortes de matériaux que les entreprises vouaient à la benne et qu'on va nous-mêmes récupérer puisqu'on a créé un poste justement pour aller collecter ces matériaux. Ces matériaux, nous les vendons bien sûr à prix solidaire pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès aux loisirs créatifs. En tant que centre social, nous savons que beaucoup de personnes aiment créer, aiment bricoler de plus en plus. Mais comme le disaient les collègues à côté, les matériaux sont chers. Les matériaux sont chers. Et nous, en tant que centre social, on a aussi cette impression, puisqu'on fait aussi des activités pour les adultes et pour les enfants. D'où l'idée de créer cette boutique associative. La deuxième partie de l'activité, ça va être de mettre en place des ateliers de fabrication de jeux pédagogiques à destination des parents, des enfants, des grands-parents. Ça sera un lieu intergénérationnel, mais aussi du loisir créatif pour toutes les personnes qui auront envie de monter un atelier ou pour des associations, des organismes, des écoles, des maisons de retraite. Voilà, c'est vraiment ouvert à tous les publics. Et l'objectif, bien sûr, c'est de permettre à tous de pouvoir avoir accès aux loisirs créatifs, comme je l'ai dit plus tôt. Voilà.
Est-ce que la boutique donc est une activité qui émane du centre social?
Oui, tout à fait.
Et qui est gérée en fait du coup de quelle manière en termes d'organisation, de gouvernance?
Alors la gouvernance jusqu'à présent était le centre social de Babet. Nous venons juste de nous déclarer en tant qu'association. Donc nous avons un conseil d'administration, un nouveau conseil d'administration qui n'est pas le même que celui du Babet. Par contre, nous avons un membre de droit. Nous avons demandé à ce qu'il y ait un membre de droit du centre social pour pouvoir encore nous accompagner dans la démarche.
Donc en association constituée pour pièces montées, oui. Avec des personnes salariées, bénévoles.
Alors nous sommes deux salariés. Enfin, on nous prête en fait pour la boutique pour quelques heures pour pouvoir finir de monter le projet. Mais ça fonctionne surtout avec des bénévoles. La plupart des personnes sont bénévoles, plus le poste qui a été créé, qui est encore un contrat aidé, bien sûr, hein, c'est la seule possibilité qu'on a pour la collecte, la revente et le démarchage auprès des entreprises.
Je posais la question parce que ça demande effectivement des moyens humains, des moyens matériels aussi, parce qu'aller collecter, il faut un camion benne, il faut...
On a un fourgon, on a un vieux fourgon qu'une association nous a mis à disposition, nous a vendu, mais vraiment à des prix, pour l'instant. Et puis, on fonctionne comme ça, donc toujours accompagné par le Babet pour la question financière, les photocopies, tout ce qu'on a besoin, en fait, pour mener à bien le projet. Et tout doucement, on va vraiment vers l'indépendance. En tant qu'association, après, on pourra vraiment fonctionner autrement.
Quelles industries ou entreprises locales se prêtent au jeu? Vous avez fait un travail de repérage en fonction des besoins matériels que vous aviez. Vous êtes fait connaître, et c'est aussi l'ambition pour que les industries vous repèrent et vous fassent proposition.
Alors déjà au centre social, on avait un grand événement qui existe toujours tous les deux ans, qui est la Fiesta des rues, où en plus de la fête, on fait de la décoration de rue et on recyclait en fait. On allait, pour pouvoir faire ces décorations de rue, on allait déjà dans les entreprises pour récupérer du matériel. Donc on a déjà ce vivier d'entreprises et puis du bouche à oreille. Et puis on fait des recherches sur Internet, on contacte nous-mêmes les entreprises, on prend des rendez-vous, on leur explique qu'on vient chercher nous-mêmes les produits. Et ça se passe très bien. Bon, il y a des entreprises qui recyclent déjà. Il y en a qui ne sont pas prêtes à nous donner des matériaux parce que ça leur demande du temps de travail. Enfin, voilà ce qu'on peut comprendre. Et puis, il y a des entreprises qui sont vraiment pour notre projet et qui nous accompagnent vraiment. Oui. Voilà, qui nous sollicitent même elles-mêmes pour qu'on aille récupérer les matériaux.
Donc là, vous faites aussi sélection de vos matériaux et ensuite, comment vous fixez les prix, je dirais, entre guillemets, même s'ils sont bien sûr attractifs ou solidaires. Oui.
Alors, on ne sélectionne pas forcément les matériaux. Donc, on a fait quand même des recherches pour récupérer des matériaux qui ne sont pas dangereux, bien sûr, puisque c'est à destination des publics. Mais non, on regarde un petit peu. Alors, au départ, on est parti sur les zones autour du quartier Beaubrun. Hein. On a la zone de la Cotonne. Enfin, on a plusieurs zones industrielles. On a un petit peu élargi. Et puis, on y va quand on nous dit oui. Alors, on ne va pas choisir si c'est du bois, si c'est du textile. On sait qu'il y a beaucoup de textiles. Donc, c'est ce qu'on collecte le plus. Mais on ne choisit pas vraiment à partir du moment où c'est du matériau qui n'est pas dangereux. Voilà. Votre autre question, c'était la question?
Non, c'était la
question.
La fixation
pour la prix.
Des prix.
Alors, la fixation des prix, avant de monter le projet, on a rencontré l'association Écolégramme qui se trouve à Bourgoin-Jallieu et qui est une association qui fonctionne sur le même principe. En fait, c'est nous qui les avons, entre guillemets, copiés. Enfin, non, parce qu'on est partenaires. Et on est toujours en lien, on travaille avec eux. Et donc, c'est eux qui nous ont un petit peu aidés, justement, par rapport au prix. Donc, on part sur des prix. Enfin, on essaye de chercher les prix sur les différentes boutiques qui existent. Mais on part vraiment du marché, de ce qu'il y a déjà de moins cher. Et on essaye de diviser par 3, les prix, pour que ce soit des prix abordables pour tous. Et on est une association, donc on va fonctionner avec une adhésion. Voilà.
D'accord. C'est la question que j'allais poser aussi sur les personnes qui viennent se fournir auprès de la boutique. Ce n'est pas seulement le centre social, vous l'avez
non,
dit.
Non, du tout.
Donc,
bon,
qui sont les personnes aussi qui viennent pousser la porte de la
boutique? Alors, c'est vraiment destiné à tous. On a eu des étudiants qui sont passés. On a eu des écoles, des enseignants. On a des personnes qui, dans leur loisir personnel, qui bricolent. On a des couturières. Enfin, on a vraiment tout type de public. Il n'y a pas vraiment un public spécifique.
Très bien. Je propose, est-ce qu'il y a ici des questions d'emblée, après avoir fait déjà ce petit tour de table, tour d'horizon, pour présenter chacune de ces expériences finalement qui sont menées ici sur la région stéphanoise. Est-ce qu'il y aurait des questions ici dans le public, des précisions que vous souhaiteriez avoir? Non, pas spécialement. Si, il y a une question ici, mais c'est parfait. Dans cette petite causerie, un peu d'interaction n'est que bienvenue. Je vous en prie, madame, parlez bien près du micro.
Oui, une question pour Onden Agro. Est-ce que vous envisagez un partenariat avec les municipalités sur de la collecte, mais là pour les particuliers, à l'image des collectes de verre, pour le pain et pour les huiles?
Ah, au niveau du pain, non, parce qu'on n'a pas le droit de récupérer le pain qui a été mis sur table. Donc récupérer le pain des particuliers, ce serait trop complexe. Et au niveau des huiles, effectivement, je pense que dans l'avenir, je pense qu'il faudrait se lancer. Par contre, voilà, il va falloir qu'une collectivité veuille bien nous aider, parce qu'on ne pourra pas y aller seul. Ça sera vraiment se pencher au niveau du développement durable et dire qu'est-ce qu'on fait des huiles des particuliers, parce qu'aujourd'hui, les particuliers, malheureusement, n'emmènent que rarement leurs huiles dans les déchetteries. Très peu de personnes savent que déchetterie accepte les huiles de friture. Donc souvent, eh ben, ça va soit dans le jardin, soit dans l'évier. Donc ben, c'est très mauvais, soit pour la nature, soit pour les égouts. Donc je pense qu'il y aura un très très grand intérêt à ce qu'on parte sur la collecte au niveau des particuliers. Nous, on est prêts à se lancer. Maintenant, voilà, on attend que la collectivité veuille bien partir avec nous. Mais je sais qu'il se pose aussi la question.
Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, ici, le jeune homme souhaite poser une question.
Oh. Pour les bennes, mais vous les trouvez où, les planchers? Parce que les étudiants, ils font comment pour avoir des planches, des bâches et tout? Genre, dans les bennes, vous trouvez tous vos matériaux, les planches, mais les étudiants, ils en ont besoin ou pas? Genre, ils en ont chez eux, des bâches et tout? Parce que pour les jeter, parce que comme c'est les bennes sont dans l'école, est-ce que c'est les étudiants qui les utilisent ou d'autres gens qui les jettent dans les bennes?
Alors, pour répondre à ta question, on a en fait les objets, les matériaux qu'on récupère, il y a une grande partie qui viennent déjà de l'école. Donc, soit des étudiants qui les ont achetés neufs, soit des étudiants qui les ont ramassés un peu partout dans la ville et qui vont faire un projet puis jeter ce projet et nous, on va le récupérer. Après, on a également, ben, des fois, nous, on espère pouvoir organiser des collectes directement. Et il y a aussi donc, la part qu'on aimerait développer plus, celle des partenariats avec les entreprises, où on aimerait pouvoir trouver ben, des gens qui pourraient nous passer des chutes à plus grande échelle et qui permettraient donc de récupérer plus et d'avoir de quoi travailler avec.
Peut-être juste préciser, moi qui étais l'année dernière dans l'équipe de la Récupératech, on s'est vraiment démené pour chercher des matériaux à l'intérieur des bennes. Donc la Cité du Design, donc notre contexte autour de l'école, c'est un endroit particulier parce qu'il y a beaucoup d'expositions qui se passent autour. Donc il y a beaucoup de matériaux qui sont utilisés pour les expositions et beaucoup ils sont jetés. Et donc c'est très courant de voir une grosse benne à l'extérieur de notre école avec tous les déchets des expositions. Par exemple, pour la Biennale internationale de design, il y a beaucoup de choses qui ont été jetées. Et nous, on a été fouillés dans les bennes et on a pris plein de matériaux. Donc c'est de l'or pour nous, en fait.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions souhaitées ici et là? Non. Ben, je crois qu'on va rester sur ces dernières questions. On vous remercie les uns, les unes et les autres. Courage également et bonne continuation à vous pour ces différentes initiatives.